la musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'un
vive mon grand galant,
vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Vive.
Assis à ses côtés, lui demanda ce que ça lui faisait de laisser Attica derrière lui. Il répondit
Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Madiot. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Voilà, et on vient d'entendre un morceau de l'ensemble Dédalus. Peut-être on peut commencer par...
Absolument, c'est Attica, un morceau de Frédéric Jevski, le compositeur et pianiste, joué par Dédalus à Vendeuvre, festival qui a eu lieu il n'y a pas longtemps.
Musique Action.
Musique Action, mais il y a deux ans. Et c'est un morceau sur la révolte d'Attica, un morceau assez politique, on va dire. Il y a l'autre partie, Coming Together.
Il y a une version d'Archichep.
Ouais, Attica Blues. Oui. Ouais. Et celle-ci est moins connue, mais il y a la deuxième partie qui est assez rythmique, où le jeu d'orchestre est très cadré mais très libre à l'intérieur.
Alors peut-être on peut parler de l'ensemble Dédalus dont tu fais partie, présenter un peu.
Absolument, l'ensemble Dédalus, longue vie derrière lui, il a été créé par Didier Achour, qui en est le directeur artistique, le guitariste, et qui est aussi qui programme à Montpellier le festival Sonorité. Et puis avec Christophe Carol, bien connu de ses antennes, j'imagine, etc. Et puis, il a été écrit avec Amélie Berson, qui est flûtiste. Et depuis 7 ans, je connais plus les années, s'est rajouté un certain groupe, le groupe Dédalus, c'est une nouvelle vie, avec des gens comme Deborah Walker, Cyprien Busolini. Le dernier arrivé, c'est Christian Pruvot. On a la trompette, on a Denis Chouillet, piano, j'ai dit dans le désordre, oui. Eric Chaland, guitare basse, qu'est-ce que contrebasse. On a Sylvia Tarozzi, violon, dans le désordre, Fabrice Villard, poète et clarinettiste. On a Pierre-Stéphane Meuger, saxophoniste. Qu'il y a encore j'ai fait Deborah Walker, j'ai dû dire, violoncelle.
C'est un ensemble de toute façon un peu...
Percussion, il y a Stéphane Garin aussi.
D'accord.
Donc c'est à géométrie variable.
Au sens où selon les projets...
Mais dédié à l'instrumentation libre. C'est-à-dire, comme cette pièce-là, il y a un continuo, enfin on n'a pas entendu la deuxième partie, il y a un continuo d'orchestre et puis après ça peut jouer à 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 personnes. Et il y a une trame qui est écrite, mais autour de la trame, enfin, doit se jouer la musique.
Et c'est ça un peu le projet de cet orchestre d'ailleurs,
c'est-à-dire... Il n'y a pas de chef d'orchestre. Il y a des partitions, mais des fois elles sont que des verbales, c'est-à-dire que de l'écrit, des indications verbales. Des fois c'est graphique,
texte,
et parfois il y a des notes aussi, et avec toujours des indications verbales pour les aborder d'une manière ou d'une autre. Et puis on a une manière très collective de jouer ces musiques-là.
D'accord, c'est-à-dire comment ça
fonctionne ? C'est-à-dire, le guitariste qui est directeur artistique joue dans l'orchestre, il y a de toute façon personne qui est à l'extérieur pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est nous, et on arrange et chacun fait ses choix en fonction de son instrument aussi, en fonction des autres, et en fonction de la pièce, et on travaille ensemble l'organisation.
Donc c'est un exemple, work in progress en quelque sorte.
Voilà, il y a une toute petite pièce qu'on va pouvoir écouter, et celle qu'on a fait rajouter en dernier, celle de Tom Johnson, là, des mélodies rationnelles. Et par exemple, là, c'était un projet où Tom avait écrit pour un seul instrument, et Didier a proposé qu'on le joue à 10. Des mélodies rationnelles, donc véritable rationalité, une espèce de formule mathématique. Et on a pris 3 matinées, il y a quelques années, j'ai pas la notion des dates comme ça en retour. On a pris 2-3 matinées ou après-midi à travailler ensemble, dire comment on fait ça, on les a arrangés. Tom est arrivé le samedi matin pour le concert samedi soir. Il dit mais qui a arrangé ça? Et puis on a répondu c'est nous, on a arrangé un truc solo, on s'est permis d'arranger une pièce écrite. Et chacun, je sais plus, Didier avait des propositions, mais d'autres en avaient d'autres. Puis on a équilibré, puis d'une fois à l'autre, ça a changé, ça a évolué sur un projet.
Et lui était fâché?
Il était ravi.
Il
en a fait. Du coup, il a fait en sorte qu'on l'enregistre. Daniel Dehec, un super preneur de son, l'enregistrait une journée, genre à la mise en circuit. C'est sorti sur New World Record, qui est un label américain, des deux labels de musique contemporaine. Très bien sorti. On a même été payé par les Américains pour ça, un petit peu. L'argent traverse aussi dans ce sens-là. Parfois, on est fiers de ça, mais ça, c'est anecdotique. Mais voilà. Et c'est sorti comme ça, un peu à l'américaine, comme ces musiques-là sont souvent issues de l'histoire américaine à partir des années 50-60, très, très collective.
Ok, bah peut-être on en reparle, mais on écoute...
Mélodie rationnelle numéro 1, donc de Tom Johnson, par l'ensemble Dédalus.
Hello, nous revoilà.
Voilà, peut-être Laurent,
ouais.
Pourrions-nous présenter Thierry Madiou?
Bah, il peut se présenter tout seul, il est grand. Hein.
De quel instrument joue-t-il et pourquoi joue-t-il?
Qu'est-ce qu'il fout là, quoi?
Qu'est-ce qu'il fout là?
Ouais.
Bah, vous me l'avez demandé.
Bah oui, non,
déjà, je ça c'est la première chose.
Je dis que c'est un vrai plaisir.
Pour moi aussi de revenir. Et donc, je suis tromboniste de formation. J'ai commencé par l'harmonie fanfare il y a bien longtemps. Et puis voilà, j'ai tout un parcours assez variable. Non, variable dans le sens où ce s'est transformé. Je suis passé évidemment par jazz contemporain, improvisation, free jazz. Enfin, free jazz, jazz contemporain, improvisation, je ne sais pas dans quel ordre, des fois superposé. des musiques contemporaines particulières, installations sonores, et des fois pas de musique du tout, massage sonore et autres choses qui ne sont pas spécialement considérées comme de la musique.
mais qui peuvent être sonores.
Il faut avoir de la matière dans ces émissions. Moi, je t'ai vu récemment au Festival Musique Action.
Oui.
Dans une interprétation de Moondog.
Ouais.
Alors là, c'est très composé pour le coup. C'est.
Tout n'est pas écrit. C'est toujours. Alors là, la question, voilà, on va en parler directement. Là, ouais. Le rapport improvisation-écriture, ça. Je suis libre parce que j'improvise et je suis contraint et donc pas libre parce que c'est écrit. Pour moi, il y a une espèce de continuo. C'est-à-dire, si je dois aller improviser quelque part, c'est à un endroit précis. Avec des gens, il y a une durée prévue, il y a une salle, un public, c'est déjà une écriture, c'est déjà des conditions, etc. Et en fonction de ça, je choisis de prendre mon trombone, mes trompes, pas de trombone, pas de trompe, il y aurait de la danse, etc. Donc c'est déjà pour moi un début d'écriture. Quand on aborde, c'est pour ça que j'ai proposé à Frédéric Jevski au début, bon, il y a des notes, mais c'est pas parce qu'il y a des notes que c'est contraint, c'est un résultat de l'histoire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de notes que. Il peut y avoir pas de notes extrêmement contraintes. Et tous les Américains, depuis par exemple, pour ce qui est de la composition, à partir des années 50, Earl Brown, bon, on peut parler de Cage, mais il n'y a pas que Cage, justement. Cage cache un peu la forêt derrière qui s'est constituée et qui existait en partie, je dis bien. Donc maintenant, on le sait bien, mais il y a 30 ans, quand j'ai commencé à vouloir faire ces musiques-là, bah, l'information, quand on était jeune et en région, on disait province à l'époque, elle n'était pas facile à trouver. Il y avait Daniel Coe qui faisait un boulot énorme à la radio sur France Culture, je pense, et puis qui, par le Festival d'automne, a fait programmer plein de minimalistes américains. Mmh. Donc il y avait ça. Et donc tous ces compositeurs jouaient les uns les autres, sont musiciens. C'est-à-dire, En Europe, souvent, les compositeurs ont oublié d'être musiciens, ont oublié qu'ils jouaient d'un instrument ou ne le pratiquent pas toujours. Ils le cachent un peu parce que c'est une autre fonction ailleurs, aux États-Unis, a priori, ou en Angleterre, souvent, ils sont, ils mettent la main à la pâte parce que s'ils attendent qu'ils soient joués, ils ne sont pas joués. Donc, ils jouent eux-mêmes, ils se jouent les uns les autres. Et de fait, il y a une pratique comme ça très, qui ne les oblige pas à tout écrire, puisqu'ils ont des gens en confiance, etc. Ils disent, on va faire ça, je vous propose de faire ça, ça, ça et ça. Et puis, si vous avez compris, continuer, genre continuer dans ce sens-là. Souvent en Europe, les partitions qu'il y a verbales, justement, je pourrais citer Ferrari parce que ça arrive, dit bon, vous êtes libre, mais il faut faire ça, ça, ça et ça. Les Américains, c'est pas pareil. C'est, je vous propose de faire ça et puis faites ce que vous voulez. Donc, et du coup, la notion de. Enfin voilà, et sur l'improvisation, puisqu'on était dans cette soi-disant séparation, pour moi, j'ai travaillé, il n'y a pas de séparation. L'interprétation, c'est quoi? C'est prendre des décisions par rapport à un texte donné ou des choses qu'on a choisies des fois nous-mêmes, donc qui nous parlent. Et l'improvisation, c'est aussi un choix, mais à un moment. Alors, est-ce que c'est un instant T? Moi, si je dois prendre mon train pour aller improviser, si je n'ai pas fait mon choix d'instrument, il faut que j'ai déjà imaginé avec qui je joue et faire mon choix d'instrument. Sans ça, et c'est le cas de certains musiciens qui ont la chose. Il y en a qui ont la même chose systématiquement, le même set. Puis il y en a d'autres qui ont, et selon les sets. Et donc, c'est un choix avant. Et donc, j'ai déjà fait un choix bien avant le concert. Même au début, on demande des fois, je viens improviser, mais plutôt avec ça, par exemple. Avec tel dispositif, c'est possible ou pas possible? Donc voilà,
je pense qu'il y a des enjeux esthétiques quand même, c'est-à-dire que quelquefois l'improvisation est plus pertinente que la composition, ou d'autres fois c'est l'écriture, au sens où là les décisions à prendre, parce que là quand même on parlait de musique minimaliste, etc., c'est des musiques qui sont très fragiles, très sensibles, et que du coup le fait de pouvoir les interpréter avec un peu d'ouverture, ça permet aussi de sentir ça, de sentir le public, comme tu disais, de sentir le...
D'une part, elles sont fragiles, plus que d'autres. Elles l'ont été parce que c'était dans une marge un peu où elles n'étaient pas reconnues.
Non, je
ne
parle pas d'économique, je parle d'esthétique. C'est-à-dire de petites choses.
Par extension, et ça, c'est en ayant côtoyé pas mal Tom Johnson qu'on a écouté, qui est compositeur franco-américain, puisqu'il a pris la nationalité française il y a pas mal d'années et qui habite pas très loin d'ici. Tom, qui a beaucoup écrit pour Village Voice, donc a pensé ses musiques, a cité pour la première fois le mot minimal, musique minimale, dans un de ses articles pour Village Voice. D'une part, il chroniquait toutes les musiques, qu'elles soient improvisées ou autres. Là-bas, il n'y a pas de différence. Et puis, musique minimale, beaucoup de noise music, c'est de la musique minimale. C'est pas parce que c'est pas fort que c'est minimal. Ou c'est pas parce que c'est très fort que c'est pas minimal. Par exemple, déjà, on sort des choses minimales. Musique contemporaine, non. Il y a des musiques de drone, je sais pas, je connais pas bien. De métal, c'est une forme de musique minimale, ou certaines musiques techno qui répètent le même rythme pendant très longtemps, avec très peu d'évolution sur la durée, c'est une forme de musique minimale. Oui, donc déjà, je n'extrairais pas comme ça, entre pour moi, c'est un tout. Après, je ne joue pas obligatoirement ces musiques comme la techno, que je ne connais pas ce monde-là complètement, mais voilà. Et sur les choix, après, il y a la notion de compositeur. Ça, c'est une différenciation, c'est-à-dire si vous êtes inscrit à la SACEM, le problème se pose, est-ce que vous déclarez le compositeur, ou vous déclarez votre propre composition ou votre propre improvisation, votre nom sur l'improvisation. Donc là, il y a des droits qui tombent à un moment donné, mais comme ceux-là sont relativement relatifs aux États-Unis.
Tu viens de dire un truc qui me surprend. Est-ce qu'on peut déclarer une improvisation à la SACEM?
Oui, évidemment. Oui. Enfin, il y a beaucoup de musiciens. Alors, au début, l'improvisation, du point de vue de la SACEM, était reconnue jazz. Il fallait être jazzman pour être reconnu comme improvisateur. A priori, ça a changé. S'ils vous reconnaissent, je ne sais pas par quelle commission ils vous reconnaissent comme improvisateur, et j'ai fait ça il y a longtemps parce que je croyais au genre de choses. Maintenant, j'oublie de déclarer ce dont je pourrais recevoir les droits d'auteur. Et si je pouvais me désinscrire de la SACEM, c'est extrêmement compliqué. Je pense que je le ferais volontiers.
Ah bah, je te recommande de lire le livre d'Albert Marker là-dessus.
D'accord, mais avec plaisir, parce que j'ai fait ça relativement jeune, parce que c'est une espèce de monopole, une association privée qui a un monopole quasiment d'État, de fait, mais ils n'ont pas le monopole. On n'est pas obligé de payer la SACEM si personne n'est à la SACEM, mais on croit qu'on doit le faire. Donc c'est pour moi une vraie problématique, et eux définissent leur propre champ d'intervention, ce qui aussi est assez problématique. Et moi qui passe de la musique à l'art sonore, la grande différence, une des différences, c'est qu'il y a puis a priori pas de SACEM sur l'art sonore, alors qu'il y en a sur la musique. Alors que je fais la, des fois, j'ai à la limite de faire la même chose. Ouais. C'est juste une pensée, voilà.
Peut-être un peu de... d'art sonore.
Ouais. Ou plutôt, on peut écouter, justement, j'ai cité Ferrari, un petit dernier Dédalus, voilà, et on peut écouter dans le tas, alors les exercices d'improvisation, Luc Ferrari est un musicien quand même important, on va écouter au milieu, on va, il y avait 44 minutes qu'on avait fait dans l'Audi Festival aux Instants Chavirés, je pense en 2012, d'accord. C'est une bande enregistrée, voilà, avec Jérôme Nottinger aux manettes de l'Acousmonium.
Oh. Allez, un petit bout de... Les oreilles libres, c'était Luc Ferrari, exercice
d'improvisation, il y a au pluriel.
Au pluriel, interprété par l'ensemble des Dalus. Alors on a juste entendu un passage en fait, enfin deux passages plus précisément.
Oui, au centre des sept, il y en a sept, il y en a des beaucoup plus rythmés justement. Là c'était avec Acousmonium, c'est donc avec bande, et la partition n'est que la bande.
C'est ça, donc là la contrainte entre guillemets c'est vous diffusez...
On diffuse la bande, alors des fois on le fait en juste deux speakers, deux haut-parleurs.
Et vous jouez ce que vous voulez.
Absolument, sauf qu'on s'est mis d'accord nous.
Ah, ça aurait été trop
donc,
facile.
Là, on a fait un travail d'orchestre, un peu comme on a choisi d'une part la bande étant la partition, d'écouter vraiment la bande, ouais. De noter les hauteurs, c'est une partition, je pense que c'est une pièce des années 70. Mm-hmm. Et de noter les hauteurs et de toujours s'imprégner. C'est assez difficile même de distinguer pendant le concert, grâce à Jérôme, c'était très difficile de distinguer ce qui était de l'orchestre et ce qui était de la bande.
L'orchestre est amplifié aussi ?
Non, pas du tout. Acoustique, là. Et justement, malgré ça, même ça, on faisait en sorte que les gens ne puissent pas faire la différence entre l'instrument et la bande. Des fois, la bande commençait, nous, on arrivait derrière, mais sans que ça soit clair, enfin, sans que ça soit
évident.
Et
Jérôme, c'est lui qui faisait la diffusion, du coup.
Oui, oui, qui aidait un peu. Il bougeait très peu de choses, mais il aidait un peu, il faisait surtout le mix qui était important pour ce mix-là. Et nous, on avait repéré, il y a des moments plus rythmiques, les couleurs de rythme, les couleurs d'accords, les changements. Et puis après, on avait une masse, on s'était mis d'accord sur une manière d'intervenir, précisément sur des hauteurs pour connaître la bande véritablement dans son corps même. Et puis après, c'était, on avait... Chacun prenait ses responsabilités.
Écoute, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, cette fois qui a été enregistrée, là, super. Et donc, Luc Ferrari, c'est une pièce qui n'a pas été écrite pour Dédalus. C'est vous qui êtes allé la chercher. Comment vous faites pour monter le répertoire?
Cette pièce, elle est un peu différente. C'est une commande. Les Instants Chavirés, dans leur Audi Festival, voulaient faire les pièces de Ferrari. Thierry Schaeffer m'en a parlé. J'en ai parlé à Didier. Et on était d'accord pour jouer quelque chose. Brunhilde nous a envoyé des bandes. On devait jouer une autre pièce. Puis on a écouté, et puis on n'a pas bien fait attention, on a préféré jouer celle-ci. Donc il s'est retrouvé avec une autre pièce, une autre pièce, celle qui était prévue, elle a fait complètement l'affaire. Donc ça s'est fait de manière très, très libre, on va dire, très en confiance, et voilà.
Parce que du coup, en général, vous travaillez avec des compositeurs vivants et qui participent aussi au travail.
En général, oui, on a fait un peu de Cage, mais en général, oui, on rencontre beaucoup de compositeurs parce qu'ils sont très peu joués. On fait surtout des compositeurs quasiment jamais joués en France. Mm-hmm. On a fait des séries, on a fait des Anglais, Apartment House, les compositeurs anglais, donc Tim Parkinson, John Lilly, James Sanders, etc. Mm-hmm. Bon, les Américains, là, on a fait les anciens. On aime bien faire... on ne l'a pas rencontré parce que lui, il est plus compliqué, la Monty Young. Phil Niblock, Deborah qui a joué il n'y a pas longtemps pour lui. On a repris des pièces qu'il avait écrites pour... écrites, il fournit une bande, pareil, puis il n'écrit rien.
D'accord.
Sauf certains musiciens ont mis quelques passages, on écoute un enregistrement ou qu'un bout, puisque c'est des pièces qui durent 22 minutes par exemple, on va pas tout écouter je pense, où on a juste un parcours, on choisit, faut être assez nombreux et se mélanger aussi avec la bande et faire une masse. Et c'est pas toujours des effets de masse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Frédéric Zewski, c'est un ami de Tom aussi qui vit à Bruxelles, en Belgique. On a fait aussi une série, et ça l'an dernier on est allé jouer à New York, à Brooklyn plus exactement. On a créé une dizaine de jeunes compositeurs.
D'accord.
50 à 25, 25 ans à 50 ans à peu près, et peu connus, dont un Vandelweiser. Alors on a travaillé pareil avec les Vandelweiser, les ultra minimalistes, d'Antoine Boyger, toute la série, Jörg Frey, qu'est-ce qu'il y a encore,
j'avais entendu aussi,
Radu Malfatti, aux instants dans la brasserie, voilà c'est ça, c'était une collaboration avec... c'était Tom Johnson qui avait voulu faire ça, donc c'est une triple avec les Instants Chavirés, Dédalus, et puis et du coup c'est aussi sorti en disque, Jacques Auger,
Potlatch
nous a accompagnés puisqu'il a fait un gros travail sur de post-production, en tout cas sur les deux concerts qu'on avait fait.
Okay.
Et ça s'est très bien passé, agréable. Donc les compositeurs, on a joué avec eux, et ils nous ont transmis leur musique. Donc c'est souvent une très grande proximité. Ils jouaient, il y en a un qui est flûtiste, l'autre clarinettiste, donc ils jouent avec nous. C'est souvent comme ça, et c'est très simple. Il n'y a pas de défiance entre nous et compositeurs, ce sont des partenaires.
Et du coup, ça se fait dans les deux sens, c'est-à-dire c'est vous qui allez voir les compositeurs viennent vous voir.
Aussi, là, on a enregistré du Jean-Luc Guillonnet. Bah,
il y a des compositeurs français aussi, alors.
Ah oui, on a puis des jeunes. Jean-Philippe Gross, toute la génération d'improvisateurs, on leur demande aussi de temps en temps une pièce les uns les autres, parce qu'il n'y a pas. C'est juste une fonction, un endroit différent, et nous, interprètes, on est aussi musiciens, artistes, on partage, sauf qu'on la défend, nous, en jouant la musique, et eux ont plus pris avant, mais en même temps, nous, on se l'accapare, et rien de mieux que de côtoyer ces gens-là, de pouvoir jouer avec, et de pas être, le maître arrive, parce que les compositeurs, après, ont peur des interprètes, parce qu'ils connaissent pas toute la machinerie des instruments, comment marche ton truc, c'est très compliqué, les instrumentistes peuvent être très... hautain par rapport à l'instrument, genre tu connais pas que mon trombone il descend qu'à telle note, il peut pas aller à telle autre, etc. Ça peut être genre sans technique et on s'en fout complètement, ça s'arrange.
Bah, surtout que là j'ai l'impression que les modes de jeu sont presque plus dépendants de la personne qui joue l'instrument que de l'instrument lui-même certaines fois.
Mais ils se transmettent quand même parce que les modes de jeu sont pas juste en improvisation, on trouve certaines choses qui font l'identité d'une personne, on s'aperçoit que ça existait ailleurs, etc. Et c'est multiple, c'est pas une personne qui détient un mode de jeu, en plus elle la détient, le fait de l'avoir joué à deux concerts, d'autres l'entendent, et ben, ils se l'approprient à un autre endroit, etc. et sa vie, donc il n'y a pas de... Enfin, un mode de jeu n'appartient pas à une personne.
Non, mais n'appartient pas non plus à un instrument. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est-à-dire que...
Entre une guitare et un trombone, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir mettre mon trombone sur les genoux, faire comme Fred Frith. le trombone sur pied, c'est un peu plus compliqué.
On en reparlera alors. Il y a des choses à dire. Voilà. Et peut-être on écoute d'abord.
Le Filny Block. Nameless, je pense que ça s'écrit comme ça. Enfin, de toute façon, c'est pas très grave. Filny Block, qui était professeur à l'université audiovisuelle, qui a filmé Sonra, puisqu'on évoque, qui a filmé, qui a plein d'archives exceptionnelles, puisqu'il filmait beaucoup de choses dans les années 60 à New York, et qui est quelqu'un qui vient souvent, très souvent en Europe, joue à Paris souvent. Il était encore une semaine.
À Meudon, là.
Voilà, à Meudon, il est souvent là-bas. Il fait. Bon, voilà, c'est Phil, il est en 80 ans à fond, quoi. Enfin, je parle là, autour de 80 ans. Il est à fond, il y a toute cette génération, et qui envoie ses drones. Et là, on va écouter comment un espèce de bourdon, gros son, mélangé avec les instruments.
Super. Allez, écoutons ça.
Donc, Filny Block à Nameless avec Dédalus, c'était à Vendôme-les-Nancy en 2012, mai 2012.
Musique action. C'est toujours les oreilles libres, c'est toujours Thierry Madiot et c'était Phil Niblock.
Sur Radio Libertaire.
Sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Bien.
Eh bien, nous parlions hors antenne de choses très. Assez spécial, notamment le fait que le groupe dans lequel tu joues, Thierry, Dédalus, groupe, pardon, j'ai une formation rock'n'roll, moi, l'ensemble.
Non, on peut dire un groupe. Hein.
Oui, je pense. Hein. Est un ensemble de je sais pas combien de musiciens. Enfin, moi, j'ai...
Il y a un réservoir d'une 13-14 musiciens à peu près.
Voilà. Et économiquement, c'est pas évident que vous jouiez.
Non, on jongle, c'est plutôt la jonglerie, puisque bon, c'est un ensemble que, quand j'ai commencé, de toute façon, il n'était pas question de salaire, hein, tout simplement. C'était un ensemble où on jouait les quelques entrées qu'on trouvait dans un tout petit théâtre, j'ai oublié le nom, mais c'est pas un vrai théâtre. Et... permettait de payer le voyage du guitariste et qui venait de Montpellier, et puis c'est tout. Enfin voilà, et puis même pas se payer à bouffer. Et puis on avait de toute façon l'engagement par rapport à Dédalus, c'est généralement l'engagement artistique, esthétique, défendre une musique qu'on a envie de faire, et quel qu'en soit le salaire. Et généralement, là, on commence à être plus souvent payé, mais voilà. Et on est souvent aussi, au lieu d'aller vers une économie de solo, duo, trio, c'est de cela dont on parlait, on a le plaisir de jouer à 6-7 minimum, ce qui est déjà bien, mais c'est, en général, c'est souvent la formule dans laquelle j'interviens. Et là, on a une formule, on est 12-13, et on a un vrai plaisir de faire un seul son à 13, c'est-à-dire on a toutes nos sons qui se fondent, là il y a la bande qui aide, il y a un mélange, on a un seul son à 13 et on est en même temps des solistes et en même temps vous pour donner l'instrumentation de ce que vous avez entendu tout de suite là, ça va être compliqué. moi je peux le faire de mémoire, je sais qui était là, je peux reconnaître 2-3 choses, mais on a ce plaisir de faire un son à tous. Et en même temps, on a besoin d'être nombreux pour ça. C'est pas pas à 3 et ça change. Ça dit beaucoup de choses. Effectivement, ça devient rare et en même temps, parce que je sais pas si c'est rare, il y a une série de collectifs qui est en train de se créer en ce moment autour de gens de la musique improvisée, de ces musiques-là. Et des plus ou moins écrites dans ce sens-là. Et une appropriation, il y en a un à Bordeaux, ils sont une trentaine autour de David Chiesa. J'ai donné un atelier, un stage pour transmettre des choses à des gens qui viennent plus du jazz, mais pas tout à fait jazz non plus. C'est au Doc, c'est dans Saint-Germain-d'Ecteau, c'est à 30 km, 20 km de Caen. Mmh. Il y a le collectif général d'expérimentation autour de Nicolas Thirion à Dijon qui organise des concerts dans le lieu de musique contemporaine sous notre casquette. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a Musix avec qui je travaille beaucoup. À Paris, on a effectivement Odos, voire Loncem, qui est un peu différent aussi, qui se préoccupe de musique aussi entre improvisation et écrite.
Mm-hmm. Ouais. Ce que nous parlions en antenne, ce dont nous parlions en antenne, c'était le fait que moi, je parle plutôt de danse et de théâtre, et puis j'étais bien surpris que tu me dises que peut-être ça existe en musique, du fait que en danse et en théâtre, on en vient à des formes réduites, c'est-à-dire des duos, puis des solos.
Bah moi, je l'ai vécu, puisque j'ai 50 ans, donc en arrivant, en commençant à jouer, j'avais 20 ans, 82, 3. Mmh. Au début, la norme était 6-7, c'était normal, quasiment. Ouais. 5 dans les festivals de jazz contemporain, et puis ça s'est amenuisé, et maintenant, là, ça a été jusqu'au trio, et maintenant, la norme, c'est le solo, on va dire, à quelque chose près. Et le solo sans instrument, parce que venir avec une voiture quand on a du bazar, c'est un surcoût, donc solo d'ordinateur, on va dire. Mais j'aime l'ordinateur, ouais, c'est pas un problème, c'est un outil comme un autre, un instrument, mais la norme, c'est d'avoir un truc super léger, qui n'est pas problématique, qui envoie du son, enfin voilà. Et que tout le monde...
Bientôt, il n'y aura que des harmonicistes, quoi. C'est terrible.
Alors, tant mieux. sauf que... tant mieux. T'avais une question, mais moi, quelle conséquence ça peut avoir, si ça en a, je pense que moi, que ça en a, sur la création, sur peut-être l'instrument sur les, le fait de...
Alors, il y a une... Enfin, mes traversées de ces 30 dernières années font qu'il y a des bouleversements importants qui sont pas des problèmes, qui amènent des variations. Avant, c'était l'orchestre, savoir jouer d'un instrument, être virtuose. Maintenant, cette notion a disparu, a beaucoup diminué. Connaître vraiment un instrument à fond, en avoir passé 5-7 heures par jour pendant 10 ans, ça se raréfie. C'est toujours là dans les musiques classiques, dans le conservatoire. Il y a toujours cette pratique. Et certains sortiront toujours de là avec une véritable pratique, pas toujours collective, parce que quand au conservatoire, on ne travaille pas beaucoup avec les autres. On travaille beaucoup chez soi. Or, travailler dans l'orchestre, moi, si j'ai eu envie de jouer du trombone, c'est que le trombone est au milieu de l'orchestre, au milieu de, de l'harmonie, c'est au milieu de tout. C'est entre la contrebasse et les autres. Ça règle, la coulisse règle la justesse et donc ça fait sonner l'ensemble. C'est au milieu, pour moi, le principe du trombone, c'est pas toujours être entendu pour soi, mais d'être mis et de faire sonner l'ensemble des choses. C'est pas un instrument soliste dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que dans des laluches, je suis ravi, je retrouve une fonction que j'avais pas retrouvée. Enfin, c'est une chose que j'aime, c'est très jouissif d'être au milieu du son de l'orchestre et de faire sonner la pièce à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est une chose importante. Pour eux, ça me fait penser, on écoutera plus tard, pas tout de suite, mais Zif, l'orchestre de trombe que j'ai constitué, on était 12, et le principe était, on était 12, on n'a pas pu le continuer très longtemps, c'était des certains non-musiciens, musiciens amateurs, il y avait Christian Privot qui était l'un des seuls, entre guillemets, professionnels, plutôt dumiste à l'époque, et on s'entendait jouer quand on arrêtait de jouer. Par l'inverse, c'est pas en jouant plus fort qu'on s'entendait jouer, c'est quand on arrêtait, ah oui, c'est moi qui jouais ce son-là au milieu du son des autres. Ça, je trouvais ça fantastique. Avec des solistes, des gens issus du jazz, ou etc., ils veulent se faire entendre pour eux-mêmes, c'est une série de discours solistes. Alors, c'était bien, c'est un certain type de musique, c'est le bebop, le hard bop poussé, etc. Ça, c'est un discours. Et des non-musiciens ont permis, par exemple, la musique qu'on a entendue de Phil Niblock, elle est quelque part possible par la technologie, c'est-à-dire pendant 20 minutes, je joue une seule note. Je jouais 20 minutes de note, une seule note au trombone pendant 20 minutes. Avant la connaissance de ces musiques-là, j'aurais dit, mais non, c'est pas possible. Bon, didgeridoo permet ça, mais c'est pas vraiment possible, il faut un certain nombre. Mais si, c'est possible, et c'est une transgression du temps grâce à la technologie, l'électricité qui permet. Donc ça a apporté des choses. Après, on est allé effectivement sur les pratiques solistes, hyper solistes, du coup, jusqu'à tout seul montrer qu'on. C'est un peu l'autoportrait du peintre ou de l'artiste. Ça reste en mémoire de l'avoir fait à un moment donné, ça fait toujours du bien. Après, le monde s'ouvre d'une autre manière. On peut lâcher ça. C'est-à-dire d'avoir un ego et de savoir où est son ego permet d'être avec les autres sans avoir un surego. Hein. Je ne parle pas d'hyper, mais de dire j'ai pas d'ego et puis tu dis finalement tout le jour. C'est pas facile de rencontrer d'autres gens. Alors c'est aussi ce passage-là de pouvoir prendre le recul. Ok, je l'ai fait. Maintenant, je peux ne plus jouer de trombone. Par exemple, il m'arrive de passer 2 mois et demi. Sans jouer de trombone, quoi. Parce que j'ai pas de concert, donc si j'ai pas de concert, je travaille pas. Okay. Donc, donc c'est très simple. Non, j'ai d'autres choses à faire, donc je fais plein d'autres choses, et ça veut pas dire que je travaille pas le son, et ça veut pas dire que je travaille sur l'ordinateur le son. Je fais plein d'autres manières de. Donc il y a tout ce parcours, donc ça a changé, et on retrouve aussi ce qui se fait rare, un peu plus rare, les gens ont envie de retrouver le plaisir d'entendre un instrument, parce que quand je jouais d'une manière bizarre il y a 20 ans le trombone, on regardait avec un drôle d'air, voire affligé, 30 ans, on regardait, oh là là, et puis maintenant c'est absolument naturel, ma manière de jouer a changé. Donc n'importe qui, je peux lui donner entendre des sons. Et la manière d'écouter les sons et la musique a aussi complètement évolué. Une forme d'écologie sonore ou de la manière d'écouter.
Qu'est-ce que tu penses de ça, de la manière dont les gens écoutent? Les gens, tu vois, pardon. Oui.
Les
auditeurs. Les auditeurs de notre émission.
Alors, je sais pas, c'est la radio, j'ai passé quasiment que des choses live, pas de disques, parce que je m'occupe peu de disques, et en même temps, c'est des expériences. Pour moi, avoir plus live, je suis très peu intéressé par l'enregistrement, parce que le trombone a du mal à être enregistré dès le départ, et puis je fais des choses qui ne passent pas à la radio. Je fais des massages sonores, je ne peux pas passer un disque de massage sonore, il faut que j'ai la personne et deux oreilles. Pour moi, le chose qui me motive le plus, qui n'exclut pas le trombone, c'est que c'est plus de jouer la musique importante, c'est l'action d'écouter. C'est une action d'écouter. Et chaque personne a une manière d'écouter, a des oreilles différentes, placées différemment, même une forme d'oreille, etc. Et puis il y a une culture, sa propre culture du son. Et ça, j'ai découvert ça par les massages sonores, des gens qui me racontaient des histoires incroyables sur le son, mais rien à voir avec les mêmes sons de base. Et donc j'ai fait toute cette pratique. Il me dit que tout le monde entend extrêmement différemment. Chaque personne entend très différemment. Et cette action, moi, m'intéresse. Malheureusement, ça sort du concert. J'adore faire des concerts au trombone. Mais du coup, écoutez, c'est plutôt là, on tombe dans la côté art sonore. On est seul par rapport à un son, une proposition sonore. Et on n'est plus en groupe à se réunir pour un concert. C'est l'exposition, l'art sonore. On est dans d'autres, voire l'individualisation des écoutes au casque qu'on retrouve partout, qui est une autre pratique qui est en même temps passionnante et en même temps qui peut être enfermante et en même temps qui est très précise. Enfin, les doubles, il y en a qui s'en sortent très bien avec, d'autres moins. Tout dépend. Mais c'est vrai, on a changé de pratique d'écoute complètement. Et savoir écouter acoustiquement, les gens, par exemple sur les massages sonores, beaucoup de jeunes me disent « Oh, j'aimerais tellement enregistrer ça ». Ok, faites l'expérience. Et je suis sûr que quand ils enregistrent ça, s'ils réécoutent le son près de leur oreille, vous prenez n'importe quel objet, vous l'écoutez près de votre oreille, il a un son dans des bonnes conditions, silencieuses, vous êtes calme, c'est-à-dire que vous, votre tympan est relâché, tous les petits muscles sont complètement relâchés. Ils vont transmettre un son, mais avec du grave, de l'aigu, d'une précision incroyable. Et si ça passe par le micro, c'est autre chose. C'est une image qui peut être très belle. Ça peut se travailler, mais c'est une image du son. Donc, voilà, l'écoute...
Il n'y a pas un même genre de rapport par rapport à la musique improvisée, enregistrée ou en concert?
Musique improvisée, bon, maintenant, c'est très vaste. On a un parcours, on a plus de 50 ans. Mais effectivement, moi, c'est une mémoire, c'est un peu la carte postale. Vous êtes allé sur le Mont-Blanc, vous avez une photo, une carte postale du Mont-Blanc, ça vous émeut par le souvenir. Si vous n'avez jamais vu de montagne avec un Mont-Blanc, c'est complètement abstrait. C'est des pixels. Ouais. C'est comme la mer, le reste, il faut en avoir fait l'expérience. Et après, un décalage d'expérience, ça peut vous dire, si vous voyez après, l'Himalaya, vous pouvez voir, le Mont-Blanc, ouais. C'est peut-être pas... Vous pouvez imaginer ce que ça pourrait être, mais tant que vous n'avez pas fait, dans certaines conditions. Donc c'est une question d'expérience pour moi. Musique improvisée, et je propose beaucoup de choses qui sont, et c'est pour ça que qui ne s'écoutent pas vraiment à la radio, ouais, pas sport, facile. Ouais. Parce que là, on prend dans le tas, on ouvre des fenêtres de son dans des enregistrements.
Bon, moi, je propose qu'on ouvre une fenêtre. Et tu parlais d'oreilles presque libres, hein, d'oreilles libérées.
Oui.
Ah, ça tombe bien.
À travailler, voilà.
Ça tombe bien. qu'est-ce que tu nous proposes?
Je pense qu'on écoute Alerte. C'est ça, Jacques, que je t'ai proposé?
Ou Symphonie.
On va passer à Alerte plutôt, parce que là, on improvise la playing list au fur et à mesure du sujet. Symphonie de John Lely, c'est autre chose. On était encore sur Dédalus. Là, Alerte, c'est une proposition avec... une proposition solo, tout simplement, ouais. De ma part.
On en reparle après, on l'écoute... Un extrait.
Thank you.
Alerte dans les oreilles libres sur Radio Libertaire avec Thierry Madio. Alors, il faut que tu nous expliques un peu le dispositif. Là.
Oui, alors c'est un dispositif acoustique. C'est-à-dire, on est deux en fin de compte. Moi, je suis au trombone basse.
Ah oui.
Et j'ai une sourdine qui est une sirène aérienne à main. Une grosse sirène aérienne, elle fait 30 cm de diamètre. qui servait d'alerte pour les alertes aériennes. Pas incendie, bombardements, etc. Je pense depuis 14-18, depuis qu'il y avait les gaz moutardes et les bombardements. Il fallait avertir loin. Donc ces sirènes, ces espèces de paniers à salade qui tournent très vite et qui et qu'on entend tous les premiers mercredis du mois à midi moins 5, midi 5.
Et c'est actionné comment alors ?
Là, à la main, il y a une manivelle et c'est Yannick Miossec. On part d'une vitesse extrêmement basse. Et le pavillon du trombone est dans la sirène. Enfin, est posé contre la sirène. La sirène a la même dimension que le pavillon. Et donc, c'est une sourdine. Et donc, mon son de trombone traverse la sirène, ce qui fait qu'il y a une espèce de ring modulation étrange, d'où cette saturation. Donc, ça se mélange. Et ça va, l'air est aspiré dans la sirène. Et donc, c'est la sortie du trombone, c'est aspiré. Et ça passe par la moulinette du moulin de la sirène, on va dire. Et ce qui fait que je suis, en fin de compte, c'est une influence indirecte de ces musiques qu'on a écoutées, je suis la même pente que la sirène. Lui, il accélère tout doucement, plus lentement possible. Et moi, dès que ça monte, ça glisse vers le haut. Plus c'est haut, plus c'est fort. Plus ça va vite, donc plus c'est fort. Et moi, j'accompagne cette hauteur en faisant une autre. Et donc, ça crée des battements autour. Et ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à devenir, pour moi, même pour lui, pour tourner, ça sonne très, très, très vite. Et c'est extrêmement dur. Et pour moi, c'est extrêmement physique de souffler très fort dans le trombone. Parce que ça devient très fort. Et d'avoir une espèce de... Pas tout à fait un combat, mais comme ça, puis on revient. Alors il y a l'histoire de la rimodulation, c'est l'électronique acoustique. Bon, le micro, je ne sais plus où était passé. On entend de drôles de choses qui me plaisent bien. On ne sait plus trop à quoi c'est dû, mais c'est. Je veux dire, quand on est tout près, c'est très fort et c'est très, très prenant. Quoi.
Bon, il faut le jouer dans une grande salle.
Pas toujours, parce que quand je l'avais joué dans Sonic Protest, habitué au gros son, etc., finalement c'est très fort pour moi, mais c'était pour le public Sonic Protest, c'était peut-être pas si fort que ça. Donc ça mériterait des fois d'accompagnement de micro ou pas, ou je ne sais pas, ou d'être tout près. Enfin, c'est paradoxal, j'ai l'impression que c'est très fort, mais c'est plutôt violent. Enfin.
Et comment tu t'es retrouvé du coup avec ce dispositif-là dans le...
Mais je suis toujours, moi les sirènes m'intéressent, pas seulement par rapport à Varèse qui utilisait ça, mais aussi parce que le trombone c'est un instrument qui n'a pas de mécanique. C'est un tuyau qui s'allonge et se raccourcit. Et je suis passionné par tous ces phénomènes sonores qui ont des glissés permanents, bon, la sirène en est un. Il y a très peu d'instruments traditionnels, acoustiques, qui sont sans mécanique. Il y a flûte, avec des coulisses, il n'y en a pas, ou surtout qui n'utilisent pas les doigts. Oui, trombone n'utilise pas les doigts. Les cordes, on a les doigts.
Est-ce que tu peux expliciter ça ?
Le trombone, il y a une coulisse. Ouais. Donc cette coulisse s'agrandit, se transforme. Le trombone, comme l'accordéon, fait partie en gros des deux instruments qui se transforment en jouant. Leur taille se modifie en jouant. Avec la cornemuse sous le bras, on peut dire le sac. Ouais. Son corps se transforme en jouant. Les autres, la trompette, par exemple, tu appuies sur un piston, ça passe par... Elle est toujours... physiquement, elle ressemble toujours à une trompette. Enfin, elle ne se transforme pas. Ouais. Et le trombone, je bouge la coulisse et le son devient plus grave. Je la remonte, elle devient plus aiguë. Et pas toujours. Donc le trombone est un instrument qui utilise la main pour changer la coulisse. Pour changer les hauteurs, c'est la main qui change la coulisse. Donc dans le cerveau, c'est probablement pas les mêmes endroits. Il n'y a pas de digitalisation, main droite, main gauche, comme souvent on note les doigtés à la guitare, au piano. Trombone, il y a des positions, mais elles sont très abstraites. C'est très proche de la voix pour ça.
Il y a des positions de souffle aussi, parce qu'il n'y a pas que la main quand même, il y a la façon de souffler.
Oui, de souffler plus ou moins fort pour faire des harmoniques avec les lèvres, etc. Rentrer les harmoniques, là on rentre dans un jeu de contraintes du corps sonore qu'est le trombone. Mais la mécanique est extrêmement simple. Je vois Jacques qui est saxophoniste, il a des doigtés pour faire certains trucs, il a quelques harmoniques au-dessus, nous on travaille qu'avec les harmoniques, et si je fais une position, je ne suis pas sûr d'avoir la note. Je vais en avoir une autre, et plein d'autres, etc. Et c'est très... c'est pas du tout très mécanisé. C'est pour ça aussi, dans la pratique, le trombone, si on me fait parler de ça, ça revient à Monteverdi. Et à l'époque, il y avait des trombones, beaucoup. Et ça jouait ça accompagnait tous les chœurs, etc. Parce que ça pouvait jouer toutes les notes. Alors que les trombones, les trompettes, corps, etc., n'avaient qu'une tonalité. Alors, dans des histoires organologiques, mais il y avait une seule tonalité. Donc, ils ne pouvaient pas jouer tous les changements, toutes les notes, les 12 notes. Ils en avaient que 6, 7. En gros, le trombone avait tout. Donc, il jouait déjà. Il était cuivre et pas cuivre en même temps. C'est assez curieux et très proche de la voix humaine, de fait.
Par sa tessiture aussi
Dans la tessiture, oui. Même si je ne peux pas chanter les graves dans lesquels on commence, pour moi, ça correspond à mon oreille, à ma voix.
C'est drôle ce que tu dis. Même si je ne peux pas chanter... les graves. Tu chantes pas, en fait.
Ben oui, mais les lèvres et les cordes vocales, c'est quasiment pareil. C'est un muscle rond par lequel, sauf que les lèvres sont au bout de la bouche, alors que les cordes vocales sont avant la langue et l'articulation de la langue. Alors que pour le trombone, c'est l'inverse. Mais autrement, c'est quasiment pareil. C'est très proche et quasiment pareil, à quelque chose près, c'est la même manière, c'est deux membranes, c'est une membrane ronde par laquelle l'air traverse et ça fait vibrer cette membrane, sauf que pour la voix, elle est articulée. Donc c'est très très proche. Et j'aime ces courts-circuits. Duke Ellington, dans sa période Jungle, avait deux trombonistes et qui arrivaient à faire parler leur trombone. Ils adoraient les sourdines, le percu avait des îlots, etc. C'était vraiment assez délirant. Et il y a un morceau, Johnny O'Frankie, je ne l'ai pas là, où le tromboniste parle. Il parle et on se dit, mais est-ce que c'est de la voix? Est-ce que c'est du trombone? On ne sait plus trop. Et ce rapport au trombone, moi, je l'ai très fortement, en tout cas. Mm-hmm. J'ai toujours rêvé de plus savoir si... Je chante avec mon trombone, j'essaye, en tout cas. Quoi qu'il arrive.
Il reste 5 minutes dans notre émission. Est-ce que peut-être Thierry Madiot, c'est pas tout à fait anodin que tu sois présent sur notre antenne. Je voulais pas forcément te vraiment qu'on aille là-dessus, mais peut-être tu peux dire quelques mots sur ce qui se passe avec les intermittents. Alors, tu as été assez présent en 2003.
Effectivement, je suis un peu un ancien combattant sur le fait. Parce que en ce moment, je ne combats pas, on va dire. Je suis ce qui se passe. Je ne suis pas amené ni à avoir à faire grève parce que je n'ai pas de boulot qui permette ça. Je ne suis pas retourné à la CIP. Effectivement, en 2003, j'ai plongé à la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France dès fin juin. Et j'ai plongé pendant 2 mois dedans. Voilà, on était à côté à Olympe de Gouges, avoir les clés et ouvrir, faire que ça marche. On était très peu de musiciens, effectivement, c'est une chose. Les musiciens sont assez invisibles, ils sont présents quand même. C'est beaucoup les comédiens qu'on entend. Donc il y a une lutte. Alors, c'est toujours ce régime. On a toujours envie de dire statut. Je rappelle, c'est un régime d'indemnisation chômage. Ça dépasse cela. Sans ça, le Premier ministre n'aurait pas intervenu hier pour essayer d'éteindre le feu. C'est une chose très très particulière parce que y a tellement à dire et c'est fait pour le cinéma, on parle que du spectacle. Je pointe les choses. Hier le ministre répond, on va donner plus d'argent aux structures du spectacle. Alors que on parle des artistes, alors que la plupart de l'annexe 8, c'est sur l'annexe 8, mais de toute façon la plupart des indemnisés, ce sont des techniciens. Je dis des choses pour dire que c'est extrêmement complexe. En même temps, cette lutte là, elle est extrêmement pointue, un endroit extrêmement parce qu'elle a été construite sur 2003, qui était construite sur avant. Donc c'est une lutte qui tient. Et j'ai vu les signataires de il y a un truc dans Le Monde là, une lettre, une tribune, on appelle ça. Ce qui m'étonnait qu'elle soit signée, parce qu'en 2003, on voulait passer des trucs, mais elle n'aurait pas été signée de personne. Là, c'est des gens qui étaient en 2003, donc je connais les noms, etc., et qui continuent à développer ce combat, en plus avec le mot précaire qui est important pour ne pas être dans une chose uniquement catégorielle, même si elle est en partie. Enfin, c'est extrêmement complexe. Moi, j'ai du mal à sauter la chose parce que ça... Je me retrouve pas à la pointe, on peut pas toujours, j'ai un bébé, et puis etc. Et puis d'autres choses qui font que je suis pas là-dedans complètement. En même temps, j'ai l'impression de comprendre assez vite les enjeux, et je pouvais presque prédire les cases avec les jeux, avec le gouvernement, le festival d'Avignon, ça a commencé là, l'occupation de la Philharmonie, quand on connaît chacun, on pouvait la prévoir, on pourrait presque prévoir certaines étapes, enfin plus ou moins, parce que ça risque de partir en autre chose. On est en... C'est vraiment qu'on... Ouais, après, il y a cette histoire de politique par rapport à un gouvernement socialiste.
Le mot socialiste a un sens historiquement.
Oui, non, je parle d'un gouvernement par le Parti Socialiste, on va dire. Non, mais c'est vrai, non, mais il faut être précis sur les mots. Et c'est une forme de continuer de dévoilement pour ceux qui n'avaient pas les yeux dessillés. Parce qu'il y en a et ça participe à ça, à certains endroits. On ne peut pas tous être savoir.
Après, je te rappelle qu'il y a 47% d'abstentionnistes, 57% d'abstentionnistes aux dernières élections. Ça, c'est assez encourageant.
Oui, non, mais c'est absolument. Moi, je sais que je suis intermittent depuis 25 ans. En même temps, j'ai décidé de, si ça si le, ce régime devait disparaître, ben je peux abandonner parce que je ne gagne pas ma vie en faisant des concerts, finalement. Si je garde les concerts, je ne gagne pas. Je fais des projets. Ouais. Je travaille beaucoup avec la pédagogie. Et là, j'étais avec un IME ce matin, Institut médico-éducatif, avec des autistes. Je travaille beaucoup avec des jeunes comme ça, des non-musiciens, des 10 ans, des 77 ans. Et pour moi, c'est là. Et mon activité est beaucoup, beaucoup là. Enfin, je me concentre beaucoup là-dessus parce que j'ai beaucoup à apprendre à ce niveau-là et beaucoup de choses à expérimenter, à travailler avec eux pour faire des propositions, et c'est un public très particulier. C'est vraiment mon chantier. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est vraiment un des gros chantiers que j'ai, de travailler avec ce public-là, parce que il y a, c'est paradoxal, il y a une individualisation, c'est-à-dire c'est chaque enfant a son problème ou chaque adulte handicapé a son problème bien particulier. Les cases sont, voilà, et ça m'intéresse de m'adresser à des gens particuliers, comme au massage sonore, je m'adresse à une seule personne à la fois. Et après, il y a des constantes, mais chacun les retrouve plus ou moins à sa manière. On a des constantes, des choses à partager, évidemment, qu'on partage dans l'autre, mais ces personnes qui sont... Est-ce que j'allais dire défaut de communication, j'ai peut-être c'est une erreur, parce que pas obligatoirement, c'est nous qui sommes en défaut de communication par rapport à eux, pour être avec eux. Des fois, on ne sait plus trop, alors que... Enfin, et donc, c'est une question de, par exemple, la musique, mon travail d'art sonore, etc. Et je me pose des questions sur comment on écoute, comment ils entendent, comment ils écoutent, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce que ça leur fait, qu'est-ce que ça leur fait pas. Et donc, j'ai glissé la... Donc, l'intermittence me permet aussi... de faire ce type de recherche qui n'est pas dans le cadre de l'intermittence tout à fait, enfin de recherche, de travail, d'avoir un peu de recul. Mais si ça s'arrêtait, je ne veux pas être pris au piège de ça. Parce qu'on est confronté, c'est un modèle à l'étranger. J'ai encore vu un Portugais, là, un plutôt technicien artiste, qui disait « mais nous, on a besoin de, que vous luttiez pour votre régime parce que vous êtes le modèle ». Et je me souviens, en 2003, c'était un... personne à Côte d'Ivoire, je pense, me disait la même chose. Nous, on a besoin de continuer à vous battre parce que vous servez de référence, etc. Donc, c'est vrai que c'est pour nous-mêmes, mais pas que. Et en même temps, ça recoupe ces histoires de précarité, de contrat de travail. On est dans un merdier, mais c'est très intéressant à soulever. Moi, c'est en même temps passionnant. Enfin, si on n'est pas, effectivement... trop précarisé financièrement. Parce que le grand truc, c'est que moi, je peux parler comme ça parce qu'en ce moment... financièrement ça va, je m'en sors, mais quelqu'un qui est précarisé, qui a des problèmes, il pourrait pas tenir le discours que je tiens, et c'est toute la problématique. Elle est intéressante, ce rapport entre syndicat, coordination, individu. Enfin, ça pose plein de questions. Oui, on peut se lever les yeux. Effectivement, c'est très, très... chacun les réponses diverses. On peut faire grève, ne pas faire grève. Pas parce qu'on fait grève qu'on est à fond dedans non plus. Parce qu'on oblige symboliquement à des endroits. Si vous jouez à Avignon et que vous ne votez pas la grève, c'est... Voilà, alors que si vous jouez aux instants chavirés et qu'on ne pense même pas à la question de faire la grève aux instants chavirés, puisque médiatiquement, ça n'a aucun... Donc ça, tout le monde s'en fout. Donc voilà, il y a tout ça. C'est assez intéressant.
Tout le monde s'en fout. C'est, au-delà de tout le monde s'en fout, c'est un lieu de résistance.
Mais il faut qu'ils le prouvent tous les jours. C'est-à-dire, c'est résistance à survivre.
Oui.
Déjà que les instants arrivent à tenir économiquement d'un point de vue légal, avec de l'argent, etc., une salle, parce que c'est un coût et ça a des obligations légales. Et puis que les instants survivent pour une raison qui ne soit pas, juste de faire ce que pourrait faire n'importe qui, n'importe comment, etc. Enfin, effectivement, les instants, je suis proche et je soutiens comme je peux depuis longtemps. Mais ça, pour moi, ça me paraît être un lieu... Ouais, un endroit où on peut continuer à travailler, à penser peut-être le maximum, à écouter d'autres choses, enfin, une espèce d'îlot, avec comme des salariés, entre autres, des gens qui travaillent, qui... ça fait 20 ans, 25 ans que certains sont... faut le faire. Ouais.
Merci beaucoup,
Thierry. De rien, merci à vous.
Merci, vraiment beaucoup.
On écoute peut-être un dernier morceau avant
avant de sortir du colonialisme. Sortir du colonialisme.
Un bout d'installation de I Am A Breather.
Allez, à la semaine prochaine.
La semaine prochaine,
ça sera bien.